La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un monde.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Alors que l'amateur d'art et nous-mêmes, nous délectons d'explorer le mystère d'œuvres complexes, de sujets à clé, de contenus cachés, d'allégories abscondes ou voilées soigneusement par la sagacité de l'artiste, alors que nous nous plaisons à souligner les ruptures, les brisures, les éclats qu'effectuèrent dans la tradition les grands maîtres de l'art ancien ou moderne, aujourd'hui, nous nous confrontons à une énigme paradoxale, une aporie. Une singularité, au fond un mystère, mais bien différent de ceux dont je viens d'énumérer les attraits. Au début du XXe siècle, l'artiste Giorgio Morandi entreprend une œuvre qu'il développe pendant plus de 50 ans dans les 9 mètres carrés de son atelier à Bologne, la grande ville du baroque pourtant. Nature morte, parfois des paysages, de très rares portraits, des gravures, des dessins, les mêmes objets, presque les mêmes tons dans une gamme restreinte de couleurs reviennent continuellement sur des toiles de très petit format. Bouteilles, bols, compotiers, sucriers, brocs, vases sans cesse redisposés et répétés devraient produire sur nous un ennui sans fin. Pourtant, cette peinture patiente, inactuelle ou sans contenu, au thème restreint et inlassablement poursuivi, exerce sur le regardeur une fascination obstinée. Comme si quelque chose de plus était atteint par cet artiste, confronté au silence des choses, à l'impasse du visible, quelque chose serait atteint d'essentiel dont nous allons, dans un instant, avec mes invités, explorer le mystère dont les pièces à conviction sont réunies en ce moment et jusqu'au 15 juillet au musée de Grenoble. Pour en parler, donc, Guy Tossato et Sophie Bernard. Guy Tossato, le directeur du musée de Grenoble. Sophie Bernard, la conservatrice en chef des collections de peinture. Bonjour Guy, bonjour Sophie. Guy, vous allez bien ?
Ça va bien, merci.
Et Sophie, vous allez bien aussi ?
Oui, très bien, merci.
Bon, il y a quelque chose qui m'intéresse, Guy Tossato, et dont j'aimerais bien que vous me disiez, c'est que ces œuvres que vous avez réunies et qui sont au fond le fruit d'une collection patiente d'un grand esthète italien, Luigi Magnani Rocca, dont vous allez nous parler sans doute, eh bien ceci a fait dire à Luigi Magnani Rocca, dans un cas, ce qui me fascine, dit-il, c'est la forme, et j'ai choisi Cézanne et Morandi parce qu'il n'y avait aucun contenu. Et un peu plus loin, il dit dans un texte, je les aimais tellement, ces formes, parlant de Morandi, parce qu'elles m'apparaissaient porteuses d'un message. Donc, les œuvres de Morandi sont-elles, Guy Tossato, sans contenu ou porteuses d'un message?
Écoutez, elles sont évidemment porteuses d'un message et c'est vrai que les déclarations de Luigi Magnani sont assez paradoxales, mais en même temps assez logiques. C'est-à-dire que il y a une double recherche chez Morandi comme évidemment chez Cézanne. C'est à la fois le questionnement de la peinture, donc de la forme, de comment effectivement on peut représenter le visible sous une forme donnée. Et parallèlement, comment cette peinture peut être le véhicule, l'instrument pour aller au-delà de ces formes, au-delà de ce visible, pour comprendre ce qui, d'une certaine façon, se cache, existe derrière ces formes.
Alors, Sophie Bernard, vous avez été co-commissaire de cette exposition et vous avez vécu avec ses œuvres pendant un moment long. Vous avez écrit un très beau texte, d'ailleurs, dans le catalogue. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire comment l'aventure Morandi a commencé et s'il a été aussi immobile que nous l'imaginons lorsque nous décrivons, vous décrivez, ces pots, ces bouteilles, toujours assemblées dans des dispositions à peine diverses et des tons semblables?
Alors, en effet, l'aventure Morandi commence au début des années 10, je dirais à Bologne. Morandi, quand même, relativement sédentaire, ce qu'on ne fait que répéter. Il n'a voyagé qu'une fois, en 1956, à Winterthur. Donc, c'est vrai que Morandi est resté, quand même, dans cet atelier de 1910 à 1964, jusqu'à sa mort, entouré de sa mère et de ses trois sœurs au décès du père en 1910. Donc je pense que c'est quand même une vie relativement sédentaire, relativement recluse. Et c'est vrai que moi j'aime à citer Philippe Jacotet qui disait que la vie de Morandi était celle d'un peintre et une vie aussi concentrée que celle des religieux. Alors je pense qu'on peut quand même y voir peut-être une adéquation en tout cas entre cette vie, cet atelier et l'œuvre si singulière et si méditative de l'artiste.
Alors, avant de poursuivre plus avant, je vous propose d'écouter une description que fait de ces tableaux, presque archétypaux, au fond, Claude Esteban. Écoutons le poète franco-espagnol.
Voici donc, lentement rassemblée sous un regard, l'offrande infime du sensible. Quelques bouteilles, ces deux bols, un vase où toujours les mêmes fleurs se courbent. De la multiplicité du réel, il semble que Morandi n'ait retenu en vérité que les vestiges, les traces frêles ou les mieux effacées. Comme si tout le spectacle du monde s'arrêtait pour lui au seuil d'une chambre, enclose dans son ombre et sa pensée. Mais ces bouquets, ces boîtes grises, ces flacons auxquels le peintre s'attachera durant plus de 40 années, ignorent, dirait-on, les aléas de l'être. Perpétue un paysage immobile sur qui l'usure des instants, l'épuisement furtif du vide n'ont prise aucune et se démente. Cet accord du plus fragile et de la permanence, c'est lui, je veux le croire, qui nous requiert d'abord dans l'œuvre tout à la fois secrète et claire du maître bolognais. Plus obscurément, sans doute à notre insu, c'est cette alliance encore, comme naturelle ici, de l'immédiat avec la durée, dont nous tirons aujourd'hui quelque assurance, et peut-être un espoir.
Je suis avec Guy Tosato et Sophie Bernard, conservateur et directeur du musée de Grenoble, pour parler du grand artiste italien Giorgio Morandi, auquel il consacre une rétrospective en ce moment. Guy Tosato, on entend les mots d'Esteban dans une paix extraordinaire, fascinée et paisible, effectivement. Mais tout a commencé peut-être dans la fureur du futurisme.
Oui, bien sûr, Morandi croise les futuristes, même si je persiste à penser qu'ils n'avaient pas grand-chose à voir avec eux. Cela étant, ils étaient les représentants de l'avant-garde en Italie avant la Première Guerre mondiale. Et ça nous donne quand même une indication, c'est que ce Morandi, qu'on voit aujourd'hui comme un peintre finalement assez classique, eh bien, était quand même très, très, très intéressé, très curieux de cette révolution formelle qu'apportait évidemment le futurisme, mais également le cubisme.
D'ailleurs, les tableaux avant 1920 sont dans une veine cubiste, un petit peu dans l'esprit du cubisme de Dufy ou de Braque. C'est une période où on sent qu'il est incroyablement soucieux de s'informer, alors qu'on pourrait penser, en voyant ses œuvres ultérieures, que c'est quelqu'un qui est resté fermé aussi par rapport à la connaissance du monde, de son monde contemporain. Or, il me semble, Sophie Bernard, que Apollinaire, par exemple, a eu de l'importance pour lui.
Oui, en effet, il lit notamment les Soirées de Paris d'Apollinaire. Il faut savoir que Morandi découvre les avant-gardes, donc on l'a dit, à travers les futuristes, les cubistes, mais lit aussi beaucoup de revues. Il est issu d'une famille qui est francophile et il va lire beaucoup de revues françaises et italiennes et découvrir un certain nombre d'artistes français en l'occurrence, mais Cézanne, Braque, Picasso, il les découvre dans des livres et dans des monographies. Donc voilà.
Et alors, il y a eu un événement quand même, ça a été la lecture d'un livre sur Cézanne, je crois, en 1907.
Oui, il dit d'ailleurs que Cézanne, c'est son peintre de nature morte, je dirais plus que Chardin d'ailleurs. Donc Cézanne est effectivement pour lui un modèle, et on le verra par la suite à travers les paysages, mais on le voit déjà à travers ses premières natures mortes, plutôt des esprits cézanniens ou cubistes.
Guy Tossato, donc il a connu, il n'a pas connu, mais il a, je ne crois pas qu'il ait connu Apollinaire, mais il a lu Apollinaire attentivement, il a su ce qui se passait. Quand il lit ce livre sur Cézanne en 1907 ou 1908, Cézanne vient de mourir depuis un an, donc on est assez près de l'actualité. Et puis on s'attendrait à ce qu'il reste ouvert à cette avant-garde, et finalement l'est-il un peu? Est-ce que les contacts avec la peinture métaphysique ou Valori Plastici a de l'importance pour lui à ce moment-là?
Oui, alors il faut quand même avoir en tête que Cézanne va rester véritablement sa référence absolue, je dirais presque son maître à penser dans le domaine de la peinture. Ensuite, toutes ces années 10, hein, il faut aussi avoir en tête que c'est un artiste qui se cherche. Hein, il est encore jeune, bien sûr, hein, il est, je te calcule, il est né en 1890, donc il a entre 20 et 30 ans, entre 1910 et 1920, et il va être tenté par plusieurs voies, hein, comme tout jeune artiste. Hein, il ne sait pas exactement encore vers où il veut se diriger. Et puis, il y a tout à coup cette découverte de la métaphysica, c'est-à-dire de ce langage qu'a mis au point Giorgio De Chirico, et que, là encore, Morandi va découvrir à travers une revue en 1918, La Racolte, quelques reproductions en noir et blanc. Et pour lui, tout à coup, c'est un choc. C'est-à-dire que c'est un choc, pourquoi? Parce que c'est une peinture qui peut à la fois unir un esprit d'avant-garde, allez, ouais, c'est une peinture révolutionnaire, et en même temps une peinture qui conserve un esprit de la tradition picturale. Et cette tradition qu'il a tellement étudiée, côtoyée, en allant voir les fresques de Giotto, des tableaux de Piero da Francesca, etc. Donc c'est tout à coup pour lui un langage qui lui permet, je dirais, de naître à lui-même.
Alors, ça veut dire, quand vous dites un langage qui lui permet de naître à lui-même, c'est-à-dire un langage inactuel, d'une certaine façon, parce qu'il y a une inactualité, je pense, dans son intention ultérieure. Mais au moment de sa rencontre avec Chirico et Cara, il essaye néanmoins de faire lui aussi des natures mortes métaphysiques, et même si, me semble-t-il, si on a déjà les bouteilles, des formes très immobiles, on est quand même dans cette ambiance un petit peu cryptée de la peinture métaphysique.
Alors, il reprend effectivement, je dirais, le vocabulaire de la peinture métaphysique avec effectivement tout ce langage mis au point par Chirico, mais il en fait quelque chose de totalement personnel, et notamment en éloignant complètement la dimension narrative et symbolique que Chirico et Cara mettaient dans la peinture métaphysique. Et ça, c'est véritablement, je dirais, déjà l'affirmation de la personnalité humaine.
Alors, vous avez dans l'exposition une très belle peinture de cette période-là. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, Guy Tossato?
Oui, alors, c'est une peinture de 1918. Hein. Il faut savoir que Morandi découvre, hein, en 1918, les peintures métaphysiques, qu'il va travailler dans ce style jusqu'en 1920. C'est très, très peu de peintures. Hein. C'est une douzaine de peintures en tout. Donc, vous voyez, une production très, très réduite. Et vous avez, eh bien, à la fois un demi-mannequin, une pipe, sans doute hollandaise, une bouteille qui est elle-même posée sur une boîte, et l'ensemble reposant sur une sorte de plateforme, hein, donc de table, de console. Et dans un style extrêmement épuré, linéaire, qui n'est pas sans rappeler effectivement la peinture de la première Renaissance, hein, on pense à, notamment à, hein, Piero da Francesca. Tout ça donc disposé de manière très énigmatique, et c'est ce qui fait penser que d'ailleurs cette œuvre qui fait partie de la collection de Magnani, la Fondation Magnani-Rocca, est sans doute la première dans la série des peintures métaphysiques de Morandi, parce qu'elle est encore, si vous voulez, un tant soit peu narrative, et en tout cas la présence du demi-mannequin, cette étrange de mannequin, elle est directement liée effectivement au langage de Kirkwood.
Alors, assez rapidement, son langage va se rassembler encore plus et au fond, se limiter à quelques objets qu'il ramasse. Sophie Bernard, comment ça se passe, la constitution du répertoire de formes de Morandi qu'il donne la sensation de rassembler comme les pièces d'un jeu d'échecs?
Alors, en effet, il y a une magnifique photographie d'Herbertis qui permet justement d'envisager Morandi un petit peu comme un joueur d'échecs dans l'atelier. Les photographies que l'on expose dans l'exposition de Luigi Ghiri nous montrent aussi cet atelier tel qu'il était, jonché de bouteilles, de vaisselle ancienne, etc. Et de fait, Morandi les assemble, les déplace, les superpose sur un petit guéridon. Parfois, il utilise un fond de carton qui permet d'expliquer aussi ses fonds opaques dans sa peinture. On a aussi un jeu de lumière. C'est vrai qu'Anne Malherbe a très bien décrit cette fabrique de l'atelier, cette machinerie un peu de théâtre s'opère dans l'atelier, où Morandi est souvent dos à la fenêtre, joue avec tous ses éléments, joue aussi avec la lumière, c'est jamais une lumière directe, et donc ça explique aussi toute la singularité de cette peinture. La poussière est aussi importante, un peu comme dans l'atelier de Giacometti, qui explique aussi que souvent on a l'impression que les bouteilles de Morandi sont nimbées d'un voile, nimbées de poussière, on n'a jamais de couleur bien sûr vive, mais tout est un petit peu éteint, nimbé. Donc voilà comment ça se passe, et c'est vrai qu'on a un très beau texte aussi dans l'anthologie de Fanette Roche-Fézar, qui l'a intitulé « Les apprêts de Morandi » et qui montre comment, avant même de peindre, Morandi va parfois apprêter ses bouteilles, mettre un petit peu de peinture blanche à l'intérieur d'une bouteille cannelée pour la rendre moins brillante, mettre du jus de peinture dans d'autres. C'est véritablement toute une fabrique qui se fait dans les 9 mètres carrés que vous évoquiez tout à l'heure.
Guy Tossato, vous avez pu aller dans l'atelier de Morandi ?
Oui, alors à Bologne, la ville de Bologne a racheté en fait l'appartement dans lequel vivait Morandi et a réinstallé totalement l'atelier tel qu'il était. Il faut savoir que Maria Teresa, la sœur la plus jeune de Morandi, au moment où il a fallu quitter ces lieux, a fait faire une sorte de compte rendu, je dirais presque archéologique, des topographiques de l'atelier qui a permis effectivement de le reconstituer tel qu'il était. Alors c'est vrai que c'est un lieu qui est extrêmement émouvant. On a parlé tout à l'heure de d'espace monacal. C'est vrai qu'on a le sentiment d'être en face d'une cellule de moines, avec un petit lit de séminariste, et puis un espace qui est totalement habité par les objets qu'il peint.
En fait, si je me souviens bien, parce que j'ai vu les photos de Luigi Ghiri que vous avez rassemblées dans le catalogue, qui sont d'ailleurs d'une beauté lumineuse absolument extraordinaire, ce grand artiste italien, et donc il me semble qu'il y a un chevalet, deux supports sur lesquels il disposait ses bouteilles et ses vases. Vous pourriez décrire les systèmes, parce que j'ai l'impression qu'il y a des systèmes de papier, de voile, de dessin, de relevé. Est-ce que vous pourriez nous décrire cela, Guy ou Sophie, je ne sais pas.
Oui, Sophie s'est beaucoup intéressée à ça, donc je lui laisse la parole.
Sophie, décrivez-nous les systèmes qu'il a mis en place pour composer.
Peut-être le papier, effectivement, il utilise parfois, il marque à chaque fois ses objets, donc il y a quantité de croquis, en fait, qui lui permettent de placer de manière quasi, je dirais pas géométrique, mais on le verra un peu plus tard dans l'œuvre, ses objets, ses bouteilles. Donc il y a tout un jeu, effectivement, dans l'espace, sur ses volumes, dont il garde la mémoire par le papier. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, en effet, parfois des fonds de carton qui lui permettent là aussi de créer ces ambiances particulières et ces fonds très singuliers. J'aime bien toujours cité Philippe Jacotet qui parle de fond, couleur de sable ou couleur de cendre. C'est vrai que c'est assez caractéristique chez Morandi. Et ce jeu sur les volumes, ce jeu sur l'équilibre, qui transparaît vraiment dans ses peintures des années 40, on le retrouve effectivement sur, peut-être sur ces assemblages, sur les guéridons que vous évoquez.
Oui, parce qu'en fait, ça donne pas l'impression d'être des guéridons. Il y a une sorte de petite construction semi-circulaire sur laquelle il pose des objets et une autre qui est une sorte de trapèze. C'est vraiment des petites scènes de théâtre. J'imagine que Piero della Francesca, lorsqu'il disposait de ses maquettes, posait les personnages un petit peu de la même façon, ou Poussin.
C'est vrai que c'est comme un peu des personnages, des protagonistes, comme sur une scène de théâtre. Et c'est vrai que de nombreux critiques l'ont évoqué. Je crois que c'est Giuseppe Raimondi et d'autres qui parlent de personnages, de protagonistes, pour parler des singulières bouteilles de Morandi.
Et auquel il donc, est-ce qu'il en fabriquait lui-même? Est-ce qu'il fabriquait certains des volumes lui-même, Guy Tosato?
Non. En fait, tous les objets sont des objets récupérés. Donc, effectivement, comme le disait Sophie, qu'il pouvait repeindre, qu'il rendait plus abstrait, hein, dont il essayait d'enlever le caractère à la fois anecdotique et utilitaire, hein, pour en faire véritablement des formes, bon, des formes certes reconnaissables, mais assez abstraites.
Alors, écoutons peut-être le texte que Anne Malherbe, dont vous parliez tout à l'heure, a écrit, évoquant justement cette poussière veloutée que vous rappeliez tout à l'heure.
Chez Morandi, cette poussière est veloutée, comme un doux manteau de feutre, qui, dit-il, uniformise les objets et apporte un sentiment de paix. La poussière atteste la compagnie fidèle de ces objets envers Morandi depuis de très, très nombreuses années. La poussière parle de temps long, de quasi-immobilité et d'acceptation de ce lent écoulement. Dans le déjà-là de l'atelier et des objets, elle apporte quelque chose de très précieux. Elle est la matière même de l'écoulement de la vie, son expression tactile et visuelle. On sait que Morandi ne se contente pas de simples poussières, mais qu'il l'enrichit de raclures de peinture et de craie, la rendant plus présente et plus dense. Elle devient ainsi l'équivalent familier et roturier de la poussière du marbre, transformant les objets en sculptures. En les nappant, elle leur accorde ce titre de noblesse que sont les traces du passage du temps. Dans l'atelier, à travers les nombreux filtres que le peintre a mis en place pour jouer avec lui, le temps se décante et se transmute en cette fine poudre enveloppante. Les peintures possèdent, à leur tour, cette même qualité presque duveteuse. La poussière retient dans ses mailles les sensations. Elle les pétrifie légèrement. L'atelier et la chambre se fondent en un seul et même espace. Le temps long des perceptions intimes et celui de la peinture se calcifie sur le tableau.
Je suis avec Guy Tosato et Sophie Bernard pour parler du grand artiste Giorgio Morandi. On vient d'entendre un extrait du catalogue sur cette question magnifique de la poussière qui s'écoule au fond, Guy Tosato, comme un sablier. Mais Guy Tosato, il y a d'autres artistes dans l'histoire qui ont vécu dans le calme de la chambre en laissant s'écouler soit le temps, soit la poussière, que ce soit au fond Proust peut-être d'ailleurs, que vous savez citer vous dans votre texte.
Oui, bien sûr, Proust a des liens évidents, enfin je pense avec l'œuvre de Morandi. Ils ont ce même rapport au temps, ce même rapport à un espace confiné, ce même rapport à la mémoire. J'ai souvent le sentiment que Morandi, lorsqu'il composait ces natures mortes, donc il passait un temps infini à bouger ces objets, essayer de trouver la composition parfaite avant de les peindre. C'était véritablement comme une sorte de jeu, de rituel, mais aussi comme les enfants, si vous voulez, le font quand ils jouent, vous voyez, dans le silence de leur chambre, à manipuler un certain nombre de jouer. Il y a quelque chose là d'une sorte de remémoration d'un temps qui est presque antérieur à celui de la naissance. Vous voyez, un temps qui rejoint justement cette question de la métaphysique, c'est-à-dire ce temps qui dépasse l'existence humaine. Et on a chez Proust hein, cette recherche du temps, de ce temps qui est celui de la vie, mais aussi celui qui transcende la vie.
Alors, quand on vous entend, on a l'impression, parce que vous en parlez avec beaucoup de finesse, et on a l'impression que Morandi est un philosophe, d'une certaine façon, un philosophe et un poète. Est-ce que, Sophie Bernard, peut-être vous pouvez nous le dire, puisque l'un de ces collectionneurs dont vous avez rassemblé ici les principaux éléments de la collection de Morandi, Luigi Magnani Rocca, est lui-même un grand lecteur. Est-ce que Morandi était un grand lecteur? Est-ce que c'était quelqu'un qui lisait de la philosophie? Philosophie, lisait des livres sur l'art. Quelle était sa culture, au fond?
Je pense que c'était un grand lecteur. On le voit dans son atelier entouré d'un certain nombre de livres. Il disait lui-même qu'il avait pour livre de chevet Pascal et le grand poète italien Leopardi. Il était aussi fasciné par Proust, on l'a dit. C'est Marilena Pasquali qui évoque aussi cette passion et ce rapprochement entre Morandi et Proust. Et c'est vrai que moi, je me suis plutôt attelé à cette question des rapports entre les écrivains, poètes et Morandi, puisque j'ai l'impression qu'il a été particulièrement aimé d'un certain nombre de poètes, et ça fait l'objet, en effet, de recherches dans le catalogue, au-delà même, je dirais, de ses affinités à lui littéraires, d'évoquer ces poètes qu'on a cités, Claude Esteban, Philippe Jacotet ou encore Yves Bonnefoy, mais aussi André-Pierre de Mandiargues et d'autres qui se sont passionnés pour cette vie solitaire et méditative et cette œuvre concentrée.
C'est extraordinaire. D'où vient, selon vous, la fascination qu'exerce ce maître, qu'on a souvent considéré comme un petit maître, donc, et on le voit dans ce que vous avez rassemblé, que c'est à tort, puisque c'est un grand métaphysicien. D'où vient cet intérêt que les poètes lui portent tout particulièrement? Est-ce que c'est dans sa capacité à faire silence, justement, Sophie Bernard?
Je pense, en effet, en tout cas, c'est assez clair chez Yves Bonnefoy, qui admire chez lui justement cette capacité à nous laisser peut-être quoi. C'est une peinture de la vie quate, se dit-il, un témoin des choses muettes, et en même temps il interroge la question du langage de la peinture et plus largement de la question du dire par la peinture. Donc en tout cas c'est une question que pose Yves Bonnefoy et d'autres. Voilà, la question du grand langage, la question de la mélancolie, la question de la propreté des choses les touche à peu près tous.
Vous parlez de la mélancolie, je ne sais pas ce que vous en pensez, Guito Sato. Est-ce que c'est un artiste mélancolique, un artiste reclus certainement? Est-ce que, selon vous, c'est un refus du monde? On sait qu'il a été sollicité pour partir à la guerre, qu'il a été démobilisé immédiatement, ça l'a rendu évidemment malade, que lors de la montée du fascisme, il a été emprisonné par les fascistes pendant quelques semaines. Est-ce que c'est une peinture du refus ou est-ce que c'est simplement une peinture d'un moine qui va chercher une vérité au-delà?
Je pense que pour Morandi, la distance avec le monde était très nécessaire. C'est-à-dire que pour être totalement disponible et ouvert à son monde intérieur, il fallait qu'il ferme la porte, je dirais, de son atelier, de sa chambre, et je dirais d'une certaine vie mondaine. Alors, en même temps, il faut tempérer les choses, puisque, vous le savez, il était enseignant, hein, et c'est comme ça qu'il a gagné sa vie pendant très longtemps, à l'Académie des Beaux-Arts de Bologne, il enseignait la gravure. Donc, il avait quand même cette relation, et notamment avec les jeunes, avec les jeunes qu'il a formés. Donc, je pense que il y avait ça. Il y avait à la fois ce don de lui-même dans l'enseignement, puisqu'il a été véritablement un enseignant très, très apprécié, et en même temps cette nécessité absolue pour lui, vitale, je dirais, de s'enfermer, de se retrancher du monde pour pouvoir s'ouvrir à ce monde intérieur.
Alors écoutons peut-être une visite que fait Cesare Brandi et qu'il écrit dans une lettre, une visite donc à, évidemment... notre grand artiste dont nous parlons aujourd'hui, Morandi.
Morandi. Nous sommes allés ensemble à Colorno hier. J'avais déjà pu apprécier son intelligence et son art. Mais ce regard pur et gentil, combien révèle-t-il de son âme ? La critique le jugea inactuel, le considérant étranger à la nouvelle réalité sociale, à l'écart, presque indifférent aux idéologies politiques survenues dans l'après-guerre, aux problèmes et aux instances que cette réalité posait, tout autant qu'aux recherches et aux tendances esthétiques nouvelles. Inactuel, il le fut, mais dans l'acception que Nietzsche donne à ce mot, quand il l'indique comme la véritable et authentique actualité de l'artiste. Dans une silencieuse et opiniâtre lutte contre l'incompréhension hostile des contemporains.
Inactuel, et on vient de l'entendre, mais dans le sens très particulier de Nietzschéen, comme le dit Brandi, évidemment. C'est assez curieux, c'est l'authentique actualité de l'artiste. Alors, beaucoup sont allés chez Morandi, et un de vos prédécesseurs, Guy Tosato, Jean Lemarie. Est-ce que Jean Lemarie, qui a été, je crois, directeur du musée de Grenoble il y a longtemps, avant d'avoir été au Musée national d'art moderne, est-ce qu'il a acheté des Morandi pour la collection ?
Non, il n'a pas acheté de Morandi. Il est resté peu de temps, en fait, à Grenoble, 5 ans simplement. Il a fait des acquisitions remarquables, notamment la cage de Giacometti, qui est la première grande sculpture de Giacometti à rentrer dans les collections publiques françaises. Donc, c'est pas rien, mais bien d'autres acquisitions.
Je signale, puisque vous évoquez cette question, c'est que donc le premier Giacometti à rentrer dans les collections publiques françaises, on peut dire que c'est le musée de Grenoble aussi qui a acheté le premier Picasso à rentrer dans les collections publiques françaises, n'est-ce pas ?
Oui. La liste est très longue, effectivement.
Non, parce que vous êtes à la tête d'un musée dont l'histoire est inouïe, hein, c'est sincèrement. Il est créé vers 1797, c'est un des premiers musées créés en France, et avec une collection d'une beauté folle. Il y a aussi l'Égypte, Georges de la Tour, Ribera, Zurbaran, Delacroix, Warhol, Matisse, Klee, Giacometti, beaucoup d'autres, Picasso. Est-ce qu'il y a des Morandi dans votre collection ?
Alors, il y en a désormais un que nous avons pu acquérir grâce à notre club de mécènes.
Bravo.
En 2015. Et ça a été un petit peu d'ailleurs le départ de ce projet, puisque cette acquisition est arrivée jusqu'aux oreilles du directeur de la Fondation Magnani Rocca, qui s'est dit, tiens, il y a un musée en France qui s'intéresse à Morandi. Et donc, ils nous ont proposé de présenter pour la première fois donc l'ensemble de la collection Morandi en dehors d'Italie, donc dans un musée français. C'est comme ça que le projet a démarré.
Alors, écoutons ce que dit Courtion, justement, de cet artiste qu'on ne connaissait pas en 1930. Écoutons ce qu'il dit, le critique d'art.
En France, on ne connaissait pas, en 1930, celui qui, avec Paul Klee, a été le seul peintre capital de notre premier demi-siècle à ne rien devoir à Paris, où on ignorait son existence. Morandi n'avait guère quitté que 3 fois son pays, où il était né à Bologne, en 1890. La première, en 1930, pour visiter près de Lugano la collection Thyssen. En juin 1936, pour aller inaugurer l'exposition de ses œuvres au musée de Winterthur, et en automne de cette même année, pour visiter au Kunsthaus de Zurich la rétrospective de Cézanne. C'était un casanier. Son œuvre est un voyage autour de sa ville, autour de sa chambre, autour de sa table.
Sophie Bernard, quand vous entendez qu'on ne connaissait pas effectivement en 1930 Morandi en France et qu'il ne devait rien à Paris, en fait, il devait beaucoup de choses à l'art français, puisqu'il aimait bien sûr Giotto et Piero da Francesca, les Italiens, mais les frères Lenain, Cézanne, beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'il regardait ?
Alors, Effectivement, il regardait beaucoup d'artistes français. On a un très bel autoportrait de la collection Luigi Magnani, où on dit qu'il a beaucoup observé Corot. Un autoportrait de 1925, où on a des harmonies gris, une touche.
C'est ça, quand vous dites Corot, vous pensez à la couleur, à la touche, au blanc. D'où vient ce lien que vous faites avec Corot? Vous le sentez?
Je pense que c'est plutôt la touche, la couleur, les harmonies assez subtiles, les camaïeux de gris, de vert, un petit peu dans cet autoportrait. C'est comme ça que je l'entends, en fait. Plutôt cette touche singulière dans cet autoportrait, en l'occurrence.
Et il broyait d'ailleurs, vous parlez de couleur, ça me fait rebondir, pardon, de dériver vers un sujet voisin. Il faisait lui-même ses couleurs, il broyait lui-même ses couleurs. C'est assez étrange, en 1940, 1950, un artiste qui continue à broyer ses couleurs.
Je pense plutôt au début de sa vie de peintre, certainement moins après, puisqu'on évoque notamment, je ne sais plus si c'est Luigi Magnani qui lui procure un certain nombre de couleurs après-guerre. Donc, je pense que c'est plutôt cette question des couleurs broyées et faites par lui-même. Ça tient plutôt aux années 20, au début de sa carrière.
Il y a une anecdote, je crois, avec Cara là-dessus.
Oui, voilà, il lui propose de la terre rouge venant d'Assise. Mais ça tient plutôt aussi une lettre de 1919. Donc, je pense que c'est plutôt le début de sa carrière.
Et on l'a connu en France à quelle période, Morandi?
Alors, Morandi, je pense que peut-être que Guy pourra en parler plus précisément que moi. C'est vrai que j'ai l'impression que la réception de Morandi est relativement tardive. Moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. C'est vrai que on a peu d'œuvres déjà dans les collections publiques de Morandi. On les présente d'ailleurs dans l'exposition aux côtés de la collection Magnani-Rocca. Il y en a une vingtaine au total, si on compte le Centre Pompidou, le musée d'Aix, Lyon, etc. Mais c'est vrai que c'est assez limité. C'est vrai que la réception de Morandi, elle est plutôt, je dirais, liée après sa mort, notamment en 70, avec l'exposition en 71 de Jean Lémarie. Mais j'ai pas l'impression qu'en France, effectivement, les expositions se soient multipliées de son vivant.
Je lisais, Sophie Bernard, une phrase curieuse, c'est Bonnefoy qui l'a fournie, et je voudrais savoir si c'est votre point de vue, parce que vous nous parliez de poésie, qui est un des domaines sur lesquels vous avez particulièrement travaillé, sur la fascination des poètes pour Morandi, et Bonnefoy dit « Oui, Morandi est proche de Mallarmé, comme celui-ci, on se doute bien qu'il avait la politesse du désespoir, la simplicité de l'extrême solitude, la douceur des négations radicales. » Vous sentez un aspect mallarméen, un coup de dé vers le néant chez Morandi?
Difficile à dire comme ça. Je pense que Mallarmé, s'il devait quand même l'apprécier beaucoup, je pense qu'il y a quand même cette mélancolie ou ce néant. Je les sens compensés chez Morandi quand même par quelque chose d'autre, par une lueur peut-être qui transparaît malgré tout dans la lumière de ces tableaux. Une négation peut-être moins radicale que l'entend ici du Bonnefoy.
Alors Guy Tossato, Morandi a eu des prix considérables, il a fini par être découvert, appuyé par des grands historiens comme Longhi par exemple, célébré par des poètes, on en a parlé, montré à la Biennale de Venise, considéré comme un des plus grands graveurs de son temps, et au fond, avec injustement peut-être, ou réellement, on a tendance à le considérer aujourd'hui, et peut-être jusqu'à ce que votre exposition ait lieu et s'ouvre, comme un petit maître. Est-ce un petit maître d'un monde restreint, ou est-ce un grand maître comme Bob Reiman qui va travailler sur ce qu'est l'essence la plus profonde et la plus sainte, probablement, de la peinture?
Indéniablement, c'est un grand maître. Et je dirais que une des grandes satisfactions de conservateur, c'est de voir que depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, c'est un artiste qui s'est vraiment imposé au plan international comme une des grandes figures de l'art du XXe siècle. Alors qu'effectivement, pendant très longtemps, il a été considéré comme un artiste un peu provincial de deuxième ordre. Et votre rapprochement avec Reiman est tout à fait juste. Hein. Ce sont vraiment des artistes qui ont beaucoup à voir ensemble. Et c'est là aussi la force d'un Morandi, c'est qu'il a, je pense, véritablement été l'initiateur de démarches comme celle de Reiman.
Alors Reimann, c'est cet artiste américain, minimal, qui travaille très souvent de façon monochrome, très souvent avec des blancs, des beiges, des blancs à la Corot justement, et dans lequel, chez lequel la touche est extraordinairement significative au fond. Et c'est assez frappant d'ailleurs de voir Guy Tosato, la lourdeur volontaire et insistante de la touche dans les premières natures mortes qu'il fait, où il accompagne tous les mouvements de l'objet, comme s'il fallait le suivre infiniment.
Oui, la touche est très importante chez Morandi. Elle va évoluer d'ailleurs dans le temps, hein, sa manière hein, évolue. Ce qu'il faut, je crois, retenir surtout, c'est que à travers la touche, c'est la matière même de la peinture hein, qu'il essaie de mettre en évidence et qui est, je dirais, le corps même de sa peinture. Hein. C'est ce qui irrigue la surface du tableau, c'est ce qui donne vie aux formes, c'est ce qui unifie la composition, et c'est ce qui, d'une certaine façon, illustre la question qui est centrale chez lui, qui est le questionnement même de la peinture. Hein. Comme chez Cézanne, bien sûr, sa grande référence, c'est que il peint, mais en même temps, il questionne hein, ce fait de la peinture.
Il y a des peintures incroyables qui m'étonnent encore, et il y a un autre artiste auquel je pense là, mais je vais y revenir, mais il y a des peintures où il n'y a vraiment quasiment rien, un mur aveugle qui prend les deux tiers de l'image et une vague vue par le coin de sa fenêtre, et c'est signé avec Morandi mais en grand, et ce presque rien, comment se fait-il que la signature apparaît avec une telle insistance souvent, comme si... qu'est-ce que vous en pensez? C'est, alors que lui est un anti-égotique, c'est pas d'un narcissisme, c'est le contraire. Comment se vanter de faire si peu avec une si grande signature? Qu'est-ce que ça veut dire, ce paradoxe?
C'est vraiment quelque chose encore qui reste, je crois, à travailler dans Morandi, moi qui m'a beaucoup interpellé aussi, parce que on le sait par tous les témoignages, hein, c'est un homme qui était extrêmement modeste, humble, timide même, et en même temps, ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir la place de la signature dans ses œuvres. Hein, avec une écriture presque d'écolier, très appliquée, mais souvent centrale. Et vous parliez de Reimann. Reimann va intégrer la question de la signature aussi dans ses tableaux. Hein,
mais oui.
Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de la question de l'identité. C'est-à-dire, vous vous souvenez de ce fameux autoportrait de Picasso qui s'intitule « Yo Picasso »,« Moi Picasso ». Et il y a certainement quelque chose de l'ordre de moi c'est cette peinture. Cette peinture, c'est moi. Et c'est ce que, je pense, Morandi dit à travers cette signature comme ça, tout à fait étonnante, comme Reimann va le faire aussi, hein, sur la question de qu'est-ce qu'un auteur? Qu'est-ce qu'un auteur d'une peinture qui est toute blanche, dont on dit que finalement elle ne représente rien, c'est du vide. Qu'est-ce qu'un auteur d'une peinture qui représente des objets communs qui n'ont aucun sens, qui sont dérisoires? Eh bien, peut-être que c'est la peinture hein, qui donne sens à tout ça, et que la signature est là pour justement dire il y a derrière tout ça un homme, et à travers cet homme un message sur qu'est-ce que la peinture et qu'est-ce que la représentation du visible à travers ce média.
Alors, puisque vous avez été chez Morandi, qu'on a évoqué tout à l'heure, le critique d'art italien, qu'il y a été aussi, Jean Lemary, évidemment, y a été, et nous le raconte, allons-y.
Aller chez Morandi, quand on avait ce bonheur, et l'expérience inoubliable s'accomplissait comme un rite, c'était d'abord traverser et savourer sa ville, les places illustres et les arcades élégantes. Puis, à l'angle des deux tours, dont le rythme infléchi gouverne étrangement sa peinture, longer les rues à portiques, soudain plus secrètes et chargées de surprises, jusqu'au paisible et vieux quartier des artisans, où il avait élu demeure. Et la nature morte qu'il vous montrait alors sur le chevalet, si l'on était admis à l'atelier, quoique rigoureusement fidèle aux humbles objets disposés sur la table et servant de prétexte, offrait aussi, dans sa cadence et son agencement, le rappel des sensations architectoniques éprouvées durant la promenade à travers l'un des plus magnifiques espaces urbains qui soient.
Sophie Bernard, j'ai été frappé en entendant Jean Lemarié parler de cela, de voir que finalement on sent qu'il devine dans les rythmes de Morandi l'équivalent d'une architecture et d'un paysage d'architecture, comme si les ocres de Bologne avaient glissé dans sa peinture et s'étaient substituées à des bouteilles, à des choses modestes. Est-ce que vous pensez que, tout à l'heure, quand Guido Sato nous disait, mais au fond, peut-être que c'est Yo Picasso, c'est Yo Morandi, il y a d'autres choses qui se disent dans sa peinture que simplement les objets qu'il représente, au sens où c'est et sa ville et lui-même, et qu'on pourrait transposer largement, au fond, ces paysages répétés vers d'autres sensations?
En effet, la question de l'architecture, notamment, est très prégnante. Enfin, de l'architecture, en tout cas, cet agencement des volumes nous mène ailleurs, dans d'autres univers. Je sais que des architectes comme Henri Gaudin se sont passionnés, par exemple, pour Morandi. Mais on a dans l'exposition, par exemple, une très belle nature morte, qui a très bien commenté Jean-Claire, une nature morte de 1942, avec des objets un petit peu ensommeillés, des grandes bouteilles qui ont un peu l'allure de, comment on pourrait dire, pas d'obélisque, mais qui nous font échapper, je dirais, de l'atelier. On a des ocres, des parmes assez fascinants, des ombres très singulières, et on se perd et on est ailleurs. On a une perte du sentiment d'échelle qui nous font quitter l'atelier. C'est le cas aussi plus tard dans l'œuvre de Morandi, avec notamment ces agencements de bouteilles blanches. Les bouteilles blanches qui deviennent comme un leitmotiv au début des années 50. Et Philippe Jacotet disait d'ailleurs qu'elles avaient la dignité de monument, que je trouve assez jolie comme formule. Et c'est vrai qu'il les multipliait en trio, duo ou décade de bouteilles. Et je trouve qu'il y a là, effectivement, un univers qui nous fait quitter, littéralement, effectivement, cet univers plus concentré de la nature morte.
C'est très beau, l'adjectif de Jean-Claire sur les objets ensommeillés que vous avez repris à l'instant. Et c'est vrai qu'on le ressent vivement. Et alors, puisqu'on parlait tout à l'heure avec Guy de la relation avec Bob Reiman et un autre artiste, quand je vois les objets photographiés par Guiry, ils sont photographiés alors qu'ils viennent d'être peints qu'ils ont été peints et repeints. Il y a une sorte de, je pense à une photo de Guiry très, très belle, qui est une photo de 1990 sur un fond ocre. Il y a des petites touches de peinture bleue au fond en désordre, c'est probablement pour moucher son pinceau. Et puis il y a ces deux objets, on dirait, mais presque littéralement, une sculpture de Twombly. Est-ce que ça vous est venu à l'esprit aussi, ou c'est moi qui rêve?
Moi, ça m'était pas venu à l'esprit, mais c'est vrai que dans ces blancs, notamment chez Morandi, effectivement, ces coquillages là qu'on entrevoit sur cette photographie, on peut en effet tisser des liens éventuels avec Twombly. De fait, ce paysage un petit peu abstrait, fruit du hasard qui se trouve derrière, évoque certains paysages de Twombly aussi. Mais ça m'était pas venu à l'esprit jusqu'à
présent. Parce que parfois, j'ai l'impression que finalement, dans son adoration de la peinture, Morandi laisse la peinture se dire, et que le geste devient presque secondaire. Alors il y a un autre endroit où il a travaillé, on parle toujours évidemment de ces très caractéristiques nature morte, c'est la nature. Il a peint dans les paysages également, non?
Oui, Morandi avait un second atelier, ce qui m'était important de noter. On a beaucoup parlé de celui de Bologne, de la Via Fondazza, mais Morandi, à partir de 1913, part aussi souvent en famille à Grizzana, dans l'Apennin bolognais. Et là se trouve une maison avec une chambre et un atelier, je dirais, tout à fait différent. Les murs sont blancs, il y a des percées vers le paysage, et à Grizzana, il va peindre énormément de paysages, dans un esprit encore une fois cézannien, mais souvent depuis la fenêtre de l'atelier, et moins dans la nature. Voilà, donc ça c'est aussi un point important de l'œuvre de Morandi. Voilà, c'est pas easy comme il les a plaît. Il s'inspire d'abord de Bologne, mais aussi beaucoup de cette campagne à quelques kilomètres de Bologne.
Alors Jean Lemarie, dont nous parlions tout à l'heure, a lui aussi été là-bas. Donc écoutons-le nous le raconter.
Sauf quelques vues urbaines de Bologne, ces paysages ont été peints autour de Grizzana, village des Apennins, choisi dès la jeunesse. Aucun élément pittoresque n'altère la simple et rude grandeur d'une campagne immuable où s'inscrivent fortement les signes humains qui rythment l'étendue, les routes, les champs, les maisons. Contrairement à la nature morte saisie de près dans sa complication objective, le motif de paysage traité par larges masses unifiées et sur l'accord de trois tons, bleu du ciel, vert du feuillage, ocre du terrain, est souvent vu de loin. L'ermite bolognais ne doit plus être regardé comme un petit maître provincial aux perfections archaïques, mais comme un artiste pleinement universel dont la voix juste s'accorde aux frissons profonds de son temps. Sa sérénité franciscaine est souvent conquise sur des remous orageux. Il possède la sagesse d'un autre âge et reflète aussi l'inquiétude moderne, le déchirement entre l'être et l'apparence. Son miracle est d'avoir su réaliser, sur un registre intime et délicat, l'équilibre difficile entre l'effusion du réel et le contrôle de la raison, entre l'objectivité qui se dérobe et la subjectivité qui se presse.
Donc Guy Tosato, visiblement Jean Lemarie est d'accord avec vous, ça n'est pas un petit maître, mais un vrai grand artiste de cette époque. Et j'étais assez frappé par une phrase, alors évidemment les phrases des poètes atteignent parfois des vérités qu'il est difficile de commenter, mais Bonnefoy à un moment donné dit ceci, « Voir Morandi aujourd'hui et l'on comprend immédiatement, l'on comprend aussitôt que le désastre a eu lieu. » Qu'est-ce que vous pensez? Quel désastre aurait lieu avec la peinture de Morandi, ou quel désastre signerait-il?
Oui, alors ça c'est vraiment une vision très à la bonne foi hein, quand même. Moi j'avoue que...
Un peu malarméenne aussi, un peu bonne foi, c'est vrai. Hein, c'est...
Oui, c'est-à-dire qu'il a une vision assez noire hein, de la peinture de Morandi, assez tragique. Et personnellement, je n'ai jamais senti de tragique dans l'œuvre de Morandi. Bien au contraire, je pense qu'elle est toujours porteuse d'espoir. Et c'est là où vous voyez dans le texte magnifique de Lemarie qu'on vient d'entendre, hein, où on sent que l'objectivité se dérobe et la subjectivité surgit. C'est exactement le propre évidemment d'un regard qu'on peut porter sur une œuvre d'art. Hein, son propre regard, et je pense que Yves Bonnefoy avait une vision très très mélancolique de l'œuvre de Morandi.
Peut-être parce que Morandi aurait ruiné le langage en créant tant de silence.
Oui, je ne sais pas s'il a ruiné le langage, parce qu'en même temps on a tous ces admirables poètes qui en ont parlé, donc au contraire j'ai le sentiment qu'il a laissé beaucoup d'espace.
Oui.
Pour justement une possible expression très personnelle. Hein, on a parlé de tous ces poètes. Je voudrais juste reparler de Philippe Jacotet qui vient de nous quitter et qui a écrit un livre. Vous êtes le plus beau livre sur Morandi, hein, le bol du pèlerin. Où justement, sa vision de Morandi n'est pas tragique comme les scènes de Bonnefoy. Elle a véritablement ce regard, je dirais, ouvert sur un espoir, sur une lumière qui est là et qui peut justement éclairer la noirceur de notre temps.
Oui, je partage tout à fait votre point de vue. Alors, il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé, alors qui est une technique qu'il a maîtrisée. Vous avez rappelé qu'il avait été professeur de gravure pendant longtemps à l'Université des Arts de Bologne. c'est ces gravures. Et parmi ces gravures, il y en a quelques-unes que je trouve extraordinaires, en particulier l'une d'entre elles que je n'arrive pas à retrouver en feuilletant le catalogue à l'instant, mais vous l'imaginerez facilement, ce sont comme toujours ces quelques récipients, bouteilles rassemblées, mais le fond de la gravure est rayé jusqu'à devenir ce sont des eaux fortes, hein, donc rayé, ça veut dire amener de l'obscurité, et on sent qu'il peint jusqu'à ce que la nuit soit quasiment envahi les objets. C'est la dernière présence des objets avant la disparition. Et c'est extraordinairement beau. Et j'aime beaucoup sentir chez Morandi, vous le sentez sans doute, Guy Tosato, ces variations de la lumière, du temps. On a la sensation d'avoir l'attente de l'artiste pour que le moment soit juste.
Oui, la lumière, c'est déterminant chez Morandi, hein. Et c'est une lumière qui est celle du faux jour aussi, hein. C'est jamais une lumière crue, c'est cette lumière, soit du crépuscule, soit de l'aurore, où les choses apparaissent, ou alors les choses disparaissent, c'est aussi, je pense, un héritage de la métaphysique. C'est-à-dire laisser au visible son mystère et laisser au spectateur cette possibilité justement de se fondre dans cette lumière pour y trouver sa propre voie.
Alors il y a un dessin de 1958 qui est extrêmement beau. Ce sont trois bouteilles et seul l'espace entre les bouteilles est dessiné. Et on a l'impression effectivement qu'il ne fait plus que dessiner ce silence qui s'installe entre les choses au fond.
Le silence, le vide. On est dans une sorte de rapport très... on pense beaucoup à l'Orient, hein, quand on regarde les œuvres de Morandi.
C'est vrai.
On a le sentiment que le vide est aussi important que le plein et qu'il y a là une sorte d'interaction entre les deux qui fait que l'un est de l'autre d'une certaine manière.
Tout à fait. Guy Tosato, je me réjouis d'aller voir cette exposition que je n'ai pas pu encore voir, comme beaucoup d'entre nous. Je sais que vous la continuez jusqu'au 15 juillet. Sophie Bernard, merci beaucoup pour vos commentaires. C'était très passionnant et de vous écouter et de vous lire dans ce très beau catalogue. Merci donc à tous les deux. Au revoir Guy Tosato, au revoir Sophie Bernard.
La matière, c'est la vie.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper, comme des mouches, quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu le directeur du musée de Grenoble, Guy Tosato, et Sophie Bernard, la conservatrice en chef des collections pour leur exposition. Giorgio Morandi, la collection Magnani Rocca, qui sera jusqu'au 15 juillet, donc il va pouvoir ouvrir, j'imagine, au musée de Grenoble. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Une émission conçue en collaboration avec Sam Boutata, recherche des textes Maureen Roy, lecture des textes, la belle voix d'Emmanuel Lemire, prise de son Alex Dang, réalisation Thomas Jost, bien sûr. La semaine prochaine, nous serons en conversation avec le grand peintre français Gérard Garousse et nous explorerons la façon dont peu à peu monte le sens d'un tableau. Mais dans quelques instants, Jukebox par Amaury Chardot, bon après-midi sur France Culture.
France Culture. L'esprit d'ouverture.